Bienvenue à Soyons Justes, un balado présenté par le Conseil canadien des ombudsmans parlementaires. Ce balado est consacré à l'équité dans l'administration publique. Nous verrons pourquoi l'équité est importante et comment un ombudsman doté d'une expertise particulière dans le règlement des plaintes peut régler ce qui ne fonctionne pas bien. Dans cet épisode, nous nous penchons sur l'enquête du protecteur du citoyen au sujet de la gestion de la première vague de la COVID-19 dans les centres d'hébergement de soins de longue durée appelés les CHSLD. Une enquête qui a fait grand bruit lors de sa sortie au Québec à l'automne 2021 et dont les répercussions se font sentir encore aujourd'hui. Je suis Frédérique Meunier, enquêtrice adjointe aux enquêtes en intégrité publique au protecteur du citoyen. À mes côtés, Mme Hélène Vallière, vice-protectrice, et Mme Juliane Plot, déléguée conseillère aux enquêtes et mandats spéciaux au protecteur du citoyen. Je commencerai par une question adressée à Mme Vallière. Revenons au point de départ. Pourquoi avoir décidé d'enquêter sur ce qui se passait dans les CHSLD pendant la première vague de COVID-19 au Québec?
Alors, il faut se replacer au printemps 2020, au plus fort de la pandémie. Le protecteur du citoyen recevait des plaintes, en fait, surtout de proches d'usagers hébergés. Et au cours de la première vague, plusieurs informations étaient rapportées par les médias. Donc, à la fois les plaintes et les informations que l'on recevait nous démontraient qu'il y avait vraiment des lacunes majeures dans les soins de base donnés aux personnes hébergées. Il y avait une multiplication des éclosions en CHSLD, un nombre de décès importants aussi là, en CHSLD, au plus fort de la pandémie dans la première vague, près de 70% des décès au Québec de la COVID-19 se sont passés en CHSLD, donc c'était des gens hébergés. Les proches étaient mis à l'écart aussi, là, donc il y avait beaucoup d'inquiétudes à cet égard-là. Donc, avec tout ça, de par notre rôle comme protecteur des usagers en santé et services sociaux, rôle de surveillance du réseau de la santé, le protecteur du citoyen a annoncé le 26 mai 2020 qu'il allait mener enquête sur cette crise-là. Et il l'a annoncé publiquement avec l'annonce aussi qu'on ferait un rapport d'étape en cours de route, dès l'automne 2020.
Et par quoi on commence quand on enquête sur un tel sujet? Et aussi, quels étaient vos rôles respectifs?
Alors, moi, comme vice-protectrice aux affaires institutionnelles et prévention, mon rôle était de mettre sur pied l'équipe d'enquête qui allait consacrer les prochains mois à enquêter la situation. Donc, l'idée, c'est de mettre ensemble une équipe multidisciplinaire composée de gens qui connaissent bien le milieu des CHSLD, qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, et des gens qui ont une expérience dans les enquêtes de plus grande envergure avec des méthodes de collecte de données, par exemple l'appel à témoignages ou la collecte de données plus statistiques, de les mettre ensemble pour construire cette équipe qui va pouvoir faire les constats de manière plus générale. Là.
De mon côté, donc j'ai fait partie du duo d'enquêtrices principales affectées à cette intervention-là. Donc, j'ai enquêtrice principale, donc on était deux collègues, moi et ma collègue Julie Roussy, mais bien évidemment, comme l'a mentionné Hélène, là, on était une grande équipe parce qu'il y a besoin de différentes expertises, bien évidemment, pour réaliser l'ensemble des activités de collecte là, qui avaient à être faites dans cette intervention-là. Donc, plus concrètement, je vous dirais, là, en tant qu'enquêtrice principale, là, notre premier rôle quand on a pris en charge cette enquête-là, ça a vraiment été de planifier l'enquête. Donc, élaborer un plan où on a dégagé deux grandes phases. Donc, c'est une enquête qui s'échelonnait sur quand même plus d'un an. Donc, c'était vraiment important, bien, premièrement, de définir notre carré de sable, comme on l'a appelé. Donc, le carré de sable, c'est l'objet de l'enquête. Sur quoi on enquête? C'est quoi les questions spécifiques auxquelles on désire répondre? Faut élaborer des hypothèses de réponse pour aller par la suite les valider à l'aide des différentes activités de collecte. Donc, pour faire ça, on fait une première collecte d'informations, donc un peu exploratoire, qui va nous aider. On va interpeller, par exemple, certains acteurs clés au sein du réseau de la santé, certains acteurs clés au sein du ministère. On demande certains documents. Donc, sur la base de ça, ça nous aide à bien dégager les questions, les hypothèses, puis par la suite, là, orienter notre stratégie.
Donc, ce que je comprends, c'est qu'on doit vraiment établir une stratégie précise. Est-ce que vous pourriez nous en parler de la mise en place de cette stratégie pour l'enquête?
Oui, en fait, cette stratégie-là s'est déployée en deux phases. Comme je le disais, vu que c'est une enquête de grande envergure, puis on savait déjà qu'on devait produire un rapport d'étape à mi-parcours, bien, on s'est dit, on fait deux grandes phases. Donc, on s'est questionné à savoir par où on commence. C'était dans l'ADN, si vous voulez, du protecteur du citoyen de commencer par le terrain, de commencer par les gens qui ont vécu la crise de front, qui ont subi des préjudices par rapport à cette crise-là, leur donner la parole. Vraiment, c'était notre priorité, donner la parole aux témoins pour dégager vraiment, avoir un portrait de vraiment ce qui s'était passé. Puis on voulait que notre première source d'information soit les gens qui a eu à vivre cette crise-là, littéralement. Là. Donc, cette première phase-là s'est échelonnée sur quelques mois, lors desquels on a fait d'abord un appel à témoignage dans l'ensemble du Québec. Cet appel à témoignage-là s'adressait principalement aux personnes hébergées, leurs proches, le personnel qui ont eu à travailler dans ces conditions-là, les gestionnaires. Donc, on a eu 1300 répondants dans l'ensemble du Québec. Par ailleurs, on a fait un appel à mémoire donc, qui s'adressait plus spécifiquement aux différentes associations, à des chercheurs. Donc, on a eu 16 mémoires là, qui nous ont aidés vraiment à aller dégager des enjeux là, qui étaient importants à regarder. Puis par la suite, en fait, un peu en même temps, on a déployé là, 10 petites enquêtes dans 10 CHSLD échantillonnés là, selon certains critères. Donc on a eu l'aide de plusieurs enquêtrices là, qui nous ont aidés à aller chercher là, les témoignages de 250 personnes dans ces 10 CHSLD-là là, en quelques semaines. On a demandé des documents, on est allé sur place. Donc, on a vraiment... je pense que l'objectif, là, c'était vraiment de cette phase-là, c'était vraiment le terrain. Cela nous a mené à l'élaboration du
rapport d'étape.
Rapport d'étape, merci Hélène. Donc, le rapport d'étape, puis par la suite, la deuxième phase de l'enquête, là, on est vraiment remonté dans la chaîne pour aller s'adresser vraiment aux décideurs, aux acteurs vraiment du ministère qui ont pris les orientations de gestion de la crise là, pour vraiment aller questionner sur la base des constats préliminaires qu'on avait faits sur le terrain. Donc, on a fait différentes entrevues auprès du ministère, mais on est aussi allé chercher l'expertise externe de différents experts, là, que ce soit en gériatrie, en prévention, contrôle des infections, en gestion de crise, donc des experts qui sont venus nous éclairer sur différents aspects. Puis par ailleurs, là, dans cette phase-là, on a fait une étude comparative là, auprès des autorités d'autres provinces là, canadiennes pour aller voir un peu les actions qui avaient été prises à quel moment. Là.
Vous l'avez abordé un petit peu plus tôt, Mme Vallière. J'aurais quelques questions sur le rapport d'étape. Pourquoi faire un rapport d'étape en cours d'enquête? Et est-ce que vous seriez prête à le refaire?
Alors, le rapport d'étape était une nouveauté. C'est la première fois qu'on faisait ça. On s'était engagé à le faire pour des raisons de transparence dans le contexte d'urgence et de crise dans lequel on était toujours, hein, même si la première vague de la pandémie avait passé, on savait que la crise continuait, on savait qu'il allait y avoir d'autres vagues. Donc, l'idée du rapport d'étape, c'était vraiment de faire état de ce qui s'était passé sur le terrain, là. Donc de donner la parole aux gens qui avaient vécu la crise. Et pour plusieurs, cette crise-là avait été... c'était pas le cas partout, mais dans plusieurs établissements, la crise avait été traumatisante, je dirais, là, tant pour les travailleurs que pour les proches. Donc, c'était important de leur donner la parole, de faire état de leur vécu, donc ce qui s'était passé sur le terrain, les soins et services qui avaient été reportés ou annulés, les ruptures de soins qu'on avait constatées au niveau des soins de base, là, tant dans l'alimentation, l'hydratation, les soins d'hygiène et la mobilité des personnes âgées, les détériorations aussi là, dans l'état de santé des personnes hébergées. Donc, c'est important de présenter ça dans la mesure où on devait déjà réfléchir aux solutions. Donc, on devait déjà donner aux décideurs des grandes orientations sur les priorités d'action à mettre en place dans le contexte où on était toujours en crise. Donc, le rapport d'étape, ça servait à ça, ça servait à guider, si on veut, là, déjà les décideurs pour mettre en place des changements, même si notre enquête n'était pas complètement terminée. Dans l'objectif qu'on était dans une situation urgente. Donc, est-ce qu'on le referait dans une prochaine enquête? Normalement, dans une enquête, on prend le temps de faire toute notre enquête, de terminer tout ça et de faire nos constats finaux à la fin. Mais dans un contexte où on est dans l'urgence d'agir, je pense que c'était un bon outil dans ce contexte-là. Donc, peut-être dans une autre situation de crise, on ne le souhaite pas, mais ça pourrait être un outil intéressant à utiliser.
Et si on parle de constats finaux, j'aimerais, Mme Plot, que vous nous parliez des conclusions finales de cette enquête.
Oui. Bien, en fait, le premier constat général, que c'est une crise multifactorielle. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette crise-là. Et c'est, ça aurait été une erreur de vraiment cibler un élément là, prépondérant. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment comme la tempête parfaite, si on veut. Donc, évidemment qu'il y avait un contexte de grande incertitude là, par rapport au virus, une grande imprévisibilité par rapport à tout ça, le contexte mondial étant ce qu'il était. Par ailleurs, là, on a pu tirer de l'enquête là, certains facteurs qui émanaient vraiment de la gouvernance puis l'organisation des services là, d'hébergement pour les années, certains facteurs historiques là, qui étaient connus de longue date. Donc, quand on pense au manque de personnel, par exemple, là, qui nécessitait que le personnel se déplace d'un endroit à l'autre pour donner des soins, ce qui rendait vraiment difficile là, le contrôle des éclosions. Le manque de données pour guider les autorités là, dans la prise de décision. Donc, oui, on avait accès à certaines données, mais peut-être pas en temps opportun. Puis on n'avait pas... ça créait un certain décalage là, entre les autorités et le terrain. Donc, on pouvait prendre des décisions, des bonnes décisions, mais parfois pas au bon moment. Donc, ce qui nous donnait un certain retard avec le virus. Donc, le manque de données est un autre facteur. Là. Puis, un autre facteur qu'on a pu identifier, ça a vraiment été que les milieux de vie pour aînés ont été l'angle mort dans la préparation. Parce que oui, il y a eu une préparation des milieux hospitaliers, donc des milieux de soins. Par ailleurs, les milieux de vie n'étaient pas bien outillés pour faire face à ce virus-là. Historiquement, ils n'avaient pas les outils, que ce soit en termes de formation, de connaissances, donc au même niveau que les hôpitaux. Donc, c'était une bonne chose de préparer les hôpitaux à l'arrivée d'un grand nombre de patients éventuellement, mais... Dans le fond, il aurait fallu outiller plus tôt les CHSLD là, en tenant compte de la vulnérabilité des personnes qui résidaient là, donc, pour faire face à ce virus-là.
Et à l'extérieur du Québec, est-ce que vous concluez que d'autres provinces ont mieux géré la COVID-19 dans leur CHSLD?
Il faut être prudent avant de faire des comparaisons entre les provinces, même si on est au Canada, puis en principe, on devrait recevoir des soins équivalents. Chaque province est structurée différemment en termes d'organisation des soins. Par exemple, les résidences ou les centres d'hébergement pour personnes âgées, ça peut être différent d'une province à l'autre. Toutefois, on trouvait intéressant de comparer le type de décision qui a été prise dans d'autres provinces avec la même information. Il faut se rappeler qu'en 2020, on est dans un contexte d'une crise qui est nouvelle, avec un virus qui est méconnu, et l'information à cette époque-là est limitée. Donc, on voulait vraiment valider comment, avec la même information, les autres provinces avaient agi. Et en Colombie-Britannique, on avait constaté que la situation dans les milieux d'hébergement de personnes âgées avait quand même été moins pire. Et effectivement, on a constaté qu'en Colombie-Britannique, ils ont pris deux actions beaucoup plus rapidement qu'au Québec. De un, dès les premières éclosions, ils ont dépêché des équipes de prévention, de contrôle des infections dans ces milieux-là pour vraiment renforcer les mesures de contrôle des infections. Et ils ont aussi imposé plus rapidement qu'au Québec une interdiction de mouvement de personnel entre les milieux d'hébergement. Bon, ils n'avaient peut-être pas la même réalité de pénurie de personnel, peut-être pas la même ampleur, mais c'est une décision qui a eu un impact majeur sur la manière dont les éclosions se sont développées. Donc, c'est intéressant pour nous de prendre ça en considération lorsqu'on discute, par exemple, là, justement de comment on a géré la mobilité du personnel versus la pénurie de personnel. C'était des enjeux majeurs à cette époque-là là, qui ont eu des incidences aussi importantes.
Une enquête d'une telle envergure, Mme Plot, quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés dans le cadre de l'enquête?
Je pense que le principal défi de cette enquête-là, ça a été le traitement du sujet, là, qui devait vraiment se faire d'une façon tout à fait neutre de par notre rôle. On enquêtait sur une crise qui s'était déjà déroulée dans un contexte qui était différent du moment où on faisait l'enquête. Donc, la crise était stabilisée. Donc, nous, on enquêtait sur des événements qui étaient passés dans un contexte de première vague où les acteurs n'avaient pas le même niveau de connaissance, n'avaient pas... donc, on était toujours en pandémie, mais le niveau de connaissance sur le virus évoluait constamment. Donc, Je pense que le premier objectif qu'on s'est donné, c'était vraiment de ne pas faire de révisionnisme, si on veut, là, en guillemets, mais bien de se replacer dans le contexte, de prendre en considération les connaissances qui étaient accessibles à ce moment-là. Donc, vraiment, adopter un ton juste. Un autre défi, donc, vraiment avec la médiatisation du sujet, la politisation de ce sujet-là, nous, en tant qu'acteurs indépendants, on devait vraiment s'assurer de maintenir cette indépendance-là, donc de vraiment assurer une neutralité, une confidentialité dans l'enquête, d'autant plus qu'il y avait certaines attentes de la population d'avoir des réponses. Donc, nous, on devait quand même garder les yeux sur notre démarche, rester centré sur cette démarche-là, puis ne pas se laisser distraire, mais tout en étant vraiment à l'affût de ce qui se passait, parce que bien évidemment que, bon, il y avait d'autres enquêtes en cours, que ce soit des enquêtes journalistiques, l'enquête du coroner, par exemple. Donc, tout ça pouvait être des distractions de par notre démarche, mais aussi des... Donc, il fallait vraiment rester concentré là, sur notre enquête, puis garder les yeux sur notre objectif. Donc, je vous dirais que ça a été les principaux défis là, dans l'échéancier qu'on avait. Puis, ben, il y a aussi tout le côté du travail à la maison. Donc, le développement du télétravail, tout ça a constitué quand même un défi important là, parce qu'on en était au premier balbutiement de ça. Là.
Et est-ce que le protecteur du citoyen fait un suivi de ces recommandations et de quelle façon il fait ce suivi?
Oui, bien, on a formulé 27 recommandations dans le rapport final. Donc, toutes ces recommandations-là ont été acceptées. On en est bien content. Par ailleurs, là, l'acceptation des recommandations, ça demeure la première étape parce qu'après, on poursuit le suivi. On désire avoir un plan d'action de la part du ministère de la Santé, par exemple, dans ce cas-ci, qui nous énonce les différentes actions qu'il va prendre pour répondre aux recommandations. Donc, nous, on poursuit le suivi au-delà de l'acceptation formelle pour s'assurer que les actions qui nous sont présentées répondent véritablement aux objectifs là, des recommandations. Par ailleurs, là, on s'est engagé à le faire dans le cadre de notre rapport annuel d'activité. Donc, à chaque année, on fait une reddition de compte publique par rapport au suivi des recommandations. Donc, où on en est, quelles recommandations on peut considérer implantées, donc, parce que les actions qui nous ont été présentées là, sont satisfaisantes. Donc, on entend poursuivre cette démarche-là là, jusqu'à ce que l'ensemble des recommandations là, soient implantées.
Madame Vallière, j'aimerais ça vous entendre sur l'état des lieux actuellement, 3 ans plus tard, dans les CHSLD.
On vit encore les contre-coups de la crise. Donc, on a dû faire face à plusieurs vagues successives de COVID-19 et en superposer à une crise de la main-d'œuvre aussi. Là. Donc, c'est sûr que c'est des éléments qui demeurent et qui ont un impact encore aujourd'hui sur notre capacité à se réorganiser, à réorganiser ces milieux-là efficacement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis la crise. Là, donc, principalement, une reconnaissance, une valorisation du rôle des proches aidants, de leur implication, parce qu'au plus fort de la crise, on a constaté que le retrait, par mesure préventive, là, des proches aidants auprès des personnes hébergées, ça a eu un impact majeur sur les soins, sur la qualité des soins qui ont été donnés. Donc, il y a vraiment là, une valorisation de leur rôle qui est maintenant reconnue et supportée. Une culture en prévention et contrôle des infections qui s'est vraiment renforcée et qui doit devenir pérenne. On reconnaît maintenant les milieux d'hébergement comme des milieux de soins et de vie. Avant, il y avait beaucoup un focus sur le milieu de vie, mais là, c'est complexe, là, ces milieux-là. Donc, on doit vraiment avoir des pratiques en contrôle des infections qui sont sécuritaires, qui font de ces milieux-là sécuritaires. Donc, ça s'est beaucoup développé à cet égard-là. Un meilleur accès aux données, on en parlait précédemment. Pendant la crise, on constatait qu'on n'avait pas de données qui nous permettaient de prendre des décisions en temps opportun rapidement. Alors, ça s'est amélioré. Il y a eu plusieurs mécanismes de vigilance qui sont mis en place. Ça doit encore être développé. Là. On doit encore développer des systèmes plus performants pour nous permettre d'avoir des données en temps réel. et aussi une meilleure concertation, communication dans le réseau avec les différents partenaires. Ça s'est renforcé. Il y a eu des communautés de pratique là, qui se mettent en place et aussi une gestion plus locale. Donc, ça, c'était un grand problème pendant la pandémie. Il n'y avait pas de gestionnaire de proximité, qu'on appelle. Là. Donc, ça a vraiment été renforcé. Donc, on est en surveillance pour voir ce qui va être mis en place de manière durable là, dans ces milieux-là. Une difficulté qui demeure et qui va demeurer, je pense, un certain temps, c'est la pénurie de personnel. On entend beaucoup parler au Québec. Il y a certaines difficultés à maintenir une stabilité du personnel, puis va de pair avec ça la qualité des soins. Donc, ça, c'est vraiment un chantier sur lequel il faut continuer de travailler en continu pour s'assurer qu'on ait du personnel en nombre suffisant qui nous permet aussi d'avoir une marge de manœuvre dans la manière dont on donne les soins pour donner vraiment des soins de qualité aux personnes hébergées, ce qui est l'objectif, en fait.
En terminant, en dépit de cette crise sans précédent, est-ce qu'il est ressorti malgré tout des éléments positifs que vous avez constatés lors de l'enquête?
Bien, écoutez, tout à fait. Je dois vous dire que l'ensemble des enquêteurs et enquêtrices là, qui ont été affectés ont été en contact avec un grand nombre de personnes, évidemment. Puis, je pense que ce qui ressortait là, de nos discussions, en fait, c'est vraiment le dévouement des gens, que ce soit les proches aidants, le personnel, même à tous les niveaux, les gestionnaires, le personnel au ministère de la Santé. On le sentait que les gens ont vraiment fourni un effort de travail là, qui était surhumain puis qui devait là, tenir le réseau à bout de bras. Donc, on a vraiment senti ça. Par ailleurs, une grande résilience, hein, parce qu'après une crise comme ça, il faut se relever. La terre n'arrête pas de tourner, les soins doivent continuer. Donc, une grande, grande résilience, puis vraiment une volonté là, très sincère d'améliorer les choses. Fait que c'est certain qu'on fait une enquête comme ça, de le sentir de la part des gens là, qui nous donnent leur témoignage. Vraiment, ça... C'est quand même un point qui est encourageant. Par ailleurs, là, il y a vraiment des établissements, là, il y a des établissements dans lesquels il y a eu beaucoup d'éclosions, mais il y a par ailleurs des établissements qui ont fait preuve d'un leadership particulier puis qui ont réussi à s'en sortir malgré tout avec peu d'éclosions, qui ont pris des mesures vraiment qui sortaient un petit peu de la boîte là, pour vraiment prendre un leadership là-dedans. Donc, il y a vraiment des établissements qui se sont démarqués. Puis par ailleurs, ben, comme la crise a vraiment été un moteur pour certaines solutions innovantes là, parce qu'on ne pouvait plus faire les choses comme on les faisait auparavant. Donc, ça poussait les gens à prendre des solutions innovantes, des solutions qui n'étaient jamais développées avant. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour la suite des choses pour les soins là, aux personnes hébergées.
Je vous remercie, Mme Julianne Plot et Mme Hélène Vallière, pour votre participation. Nous espérons que notre discussion autour de notre enquête vous aurait donné l'envie d'en savoir plus sur le rôle du protecteur du citoyen. Si vous souhaitez lire nos rapports d'enquête dont il a été question aujourd'hui, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse protecteurducitoyen.qc.ca. Merci et à bientôt.